RMC entre les poteaux.
Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, on est le 20 mars, c'est le retour de l'apéro des poteaux. Ça sent bon le printemps, ça sent bon les phases finales de top 14. C'est déjà, je vais parler de sprint final, je vais peut-être un petit peu loin, mais en tout cas, ça y est, on se projette sur la fin de cette saison régulière pour nos équipes de top 14 qui vont retrouver leurs internationaux. On goûte sûr parce qu'il y aura des joueurs ménagers, c'est une certitude. Mais en tout cas, voilà, on est dans le sprint final de notre championnat et c'est toujours très excitant comme période de la saison. Les poteaux sont de retour pour vous donner toutes les clés avant chaque journée de top 14. Vous en avez l'habitude désormais, l'apéro des poteaux, c'est tous les vendredis avant chaque journée de top 14. Des poteaux qui ont célébré la victoire du 15 de France dans le tournoi de destination. Ils ont fait la fête avec Fabien Galthié, Julien Landry et Wilfried Templier. Salut les copains.
Salut tout le monde.
Dans les couloirs du Stade de France jusqu'à 3h30.
Tu parles d'une chenille.
En chenille dans les couloirs en train de faire des sujets.
J'ai 3h30, bon, il serait peut-être temps qu'on rentre les gars.
Ouais. Fabien il continue la chenille, il dit arrête Fabien, arrête. Bon, et après il est parti tout seul.
C'est vrai que ça fait tard.
C'était le seul membre de la chenille, il était tout seul. C'est bon, enchaîne.
Allez, je vous donne le programme de cette 19e journée de Top 14 dans quelques instants. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonnez bien évidemment au podcast, hein, un épisode tous les lundis, comme d'habitude. Et puis plein de petits hors-série tout au long de la semaine. Donc vous restez branchés sur Entre les poteaux. C'est parti pour cette 19e journée. Le calendrier de cette 19e journée à vivre en intégralité, bien évidemment, sur RMC. On démarrera à 14h30 demain. Clermont reçoit Montpellier. Ça va être une des affiches sur laquelle on va se pencher tout à l'heure avec Julien. À 16h35, multi-rugby, Racing 92, Castres Olympique, Toulon qui reçoit le Stade Français. Joli match là aussi. Montauban qui accueille Bayonne. Et l'USAP recevra le Loup dans le dernier match de ce multi-rugby. L'affiche de ce samedi 21h, c'est La Rochelle qui reçoit la section paloise. Et celui-là aussi, il est pas mal, ce petit match. Et enfin, le choc du rugby français désormais, le classico, j'ai envie de dire le nouveau classico. Dimanche 21h05, l'Union Bordeaux-Bègles qui reçoit le Stade Toulousain au Matmut Atlantique. Match délocalisé devant 42 000 personnes.
Hein.
Ouais, c'est vrai.
Troisième année, je crois, de suite, la sortie du tournoi. Comme
ouais.
Ça.
Ah ouais, totalement. Bien évidemment, choc un petit peu tronqué. J'en profite pour nous mettre un petit peu le classement en tête parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de top 14. Hein. Toulouse est devant, largement devant, 12 points d'avance en tête du top 14 devant la section paloise, 55 points. Montpellier 3e, 53 points. Clermont 4e, 51. L'UBB seulement 5e, 50 points. Et le Stade Français Paris 6e avec 49 points. Il y a 4 points d'écart entre le Stade Français et la 7e place du Rugby Club Toulonnais. Et puis en bas de tableau, Montauban est quasiment condamné, hein, 7 points. Perpignan, barragiste avec 18 points. Très loin derrière, l'Aviron Bayonnais, c'est 36 points. 18 points d'écart entre Bayonne et l'USAP. Voilà, on a tout le classement qui nous est revenu en tête et on va pouvoir se pencher, les copains, sur la première affiche de cette 19e journée. Bien évidemment, Will, on va parler de ce choc qui n'en est pas vraiment un, on le dit à chaque fois, parce que c'est un choc un peu tronqué malgré tout. Il y aura des joueurs ménagers entre l'UBB et Toulouse. Hein, ce dimanche.
C'est arrivé qu'il ne soit pas cette date-là, dans un sens ou dans l'autre, à Toulouse à Bordeaux, qu'il soit tronqué quand même.
Totalement.
Donc là, est-ce que les dirigeants se disent on le fait à la sortie du tournoi, comme ça, ils ont beaucoup d'internationaux, on coupe la poire en deux, et voilà, parce qu'évidemment, les gens grognent, pourquoi mettre toujours ce match à ce moment-là? Voilà, si c'était 15 jours après, il y a la Coupe d'Europe qui arrive. Des fois, c'est fin début décembre, il y a de la Coupe d'Europe derrière, les clubs font tourner. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de bon moment. Ou alors, l'année dernière, en septembre, l'UBB était venu. On avait dit, ils vont mettre les mecs au repos. Et l'UBB avait gagné.
Ouais. Non, mais moi, je trouve ça pas déconnant de le mettre en sortie de tournoi. Tu remets un gros coup de projecteur sur ton top 14 là, pour lancer cette dernière partie de saison, tu vois. Je pense que niveau marketing, c'est pas.
Non, mais la vérité, surtout, c'est que Toulouse, ils ont pas besoin de points. C'est ça le problème.
Oui. Moins que Bordeaux.
Moins que Bordeaux. Non, mais en fait, le problème, il est là. Si Toulouse, ils étaient à la lutte avec Bordeaux, Montpellier, Pau aujourd'hui pour être sûr d'être en demi-finale, Peut-être qu'Hugo Mola, il aurait fait un choix différent. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont tellement en avance dans les points au classement.
Plus 12 sur la deuxième et plus 14 sur la troisième.
Ouais. Donc Hugo Mola, c'est facile les calculs. S'ils prennent tout jusqu'à la fin de la saison à domicile.
Ils réservent l'hôtel à Marseille déjà, quoi.
C'est ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans leurs calculs, ils vont sortir la grosse équipe la semaine prochaine. Après, je pense qu'en plus, ils ont quand même la revanche de la Coupe d'Europe et que pour aujourd'hui, ils ont un boulevard pour les demi-finales. Donc la vérité, elle est là. Alors peut-être que s'ils avaient été à égalité, ils auraient quand même fait tourner. Mais je pense que surtout, c'est qu'aujourd'hui, Toulouse, malgré les deux points de pénalité, ils sont largement devant tout le monde.
Les mecs, ils sont
sachant que tu vas te retrouver potentiellement dans 3 semaines, hein, en quart de finale de Champions Cup.
Oui, là, l'équipe sera pas la même.
Non, mais c'est normal. Ils ont des mecs qui donc ils sortent tous les, ils laissent en vacances les tauliers des tauliers, ceux qui ont beaucoup joué, Marchand, Aldeguerri, Flamand, Méafou, Cross, Dupont, Ramos. Voilà, c'est plutôt intelligent. Puis c'est l'inverse de Bordeaux qui joue à domicile avant un match la semaine prochaine à l'extérieur avant la Coupe d'Europe. C'est l'inverse en stratégie puisque Bordeaux ira à Lyon, donc ils préfèrent Bordeaux mettre la grosse équipe au Matmut face à Toulouse et voilà, et Toulouse faire reposer les mecs. Et attention à Montpellier, Toulouse-Montpellier la semaine prochaine, même si tu as dit il n'y a pas le feu dans la maison toulousaine. Mais sur pourquoi aussi, parce que toute la saison, mais parce que j'ai regardé les stats des doublons. Mais c'est la meilleure équipe pendant les doublons, le Stade Toulousain, avec Montpellier, 14 points sur 15. Il n'y a que Montpellier qui a fait ça. 3 victoires pour les deux clubs, hein, et 2 bonus offensifs pour le Stade Toulousain. Les autres, à chaque fois, il en manque un petit peu, que ce soit Pau, Bordeaux, tous ceux qui sont derrière. Donc Toulouse négocie parfaitement ses doublons. Il y en a qui diront « Ah bah oui, c'est parce qu'ils ont un effectif comme ça. Et pourquoi ils ont un effectif comme ça ?» Hein, on parlera des choses plus tard. Et voilà. Mais tout ça pour vous dire que mais l'équipe, elle est pas... On n'a pas la compo
d'équipe. Potable, soi-disant. J'ai entendu potable ce matin. Le monsieur a dit l'équipe, elle est potable.
Pour les auditeurs, voilà, on fait une conférence de rédaction le matin et j'ai cherché mon qualificatif pour l'équipe toulousaine. Voilà, si vous avez du Movaca, du Merkler, du Willis, du Romat, du Graou, du Ntamak,
Gourgue, Barassi, il a dit qu'elle était
Barassi,
potable.
Choco Barès, Gourgue, Lebel. Non, mais
ouais, c'est vrai que potable, c'est peut-être pas le meilleur adjectif.
C'est pas ça, messieurs, mais c'est pour les gens, pour les footballeurs de notre rédaction. Ils vont dire, oh, encore le choc. Voilà, pour qu'ils comprennent.
T'es trop
voilà,
habitué au caviar, je pense. T'es trop habitué au caviar, c'est pour ça.
Donc voilà, le
potable
Stade Toulousain
serait deuxième du top 14. Cette équipe potable serait deuxième du top 14.
Derrière le Stade Toulousain.
Derrière le Stade Toulousain, ah, évidemment.
Donc elle va, voilà, ils vont se déplacer. Voilà, je pense avec une idée derrière la tête aussi, hein, parce que on l'a dit, tu as parlé du classement, Nico. Bordeaux est quand même cinquième, 50 points. Bon, ça fait 5 points d'avance, mais tout va tellement vite dans ce top 14 avec une mauvaise ou une bonne série. Si le Stade Toulousain peut mettre pour enfoncer un peu plus Bordeaux,
ils vont pas
je pense
s'en
qu'ils
ne ouais,
pas pour
ne
pas les retrouver plus tard, bien plus tard, parce que c'est peut-être les plus dangereux. Quand même,
affronter Bordeaux en demi-finale ou en finale
ça, on est pas
alors, en finale, je pense quand même.
Bon, non, voilà.
En tout cas, côté Bordeaux,
il y a surtout
Bordeaux,
une petite info, dans ce match, mais on
oui,
va
alors,
parler.
Justement, côté Bordeaux, juste, je vous dis que c'était prévu depuis le
info
début de la semaine. Hein. Info pas haut. L'UBB aligne tous ses internationaux, sauf Bielbiaré, qui est en vacances. Il est à l'étranger. Oui. Il se régale, Louis Bielbiaré, qui est en liste pour le titre de meilleur joueur du tournoi.
Une petite photo au Brésil, apparemment.
Au Kenya ouais,
au Maracanã. Ouais. Non, pas
ah,
tout
d'accord,
pareil.
Je croyais que tu avais dit au Kenya.
Ouais.
Au Brésil.
À côté.
Ouais, Kenya, j'allais dire.
Brésil,
j'allais
tous
dire.
Les deux, ils avaient quand même une vision de la géographie différente.
Ouais, ouais, bah. Et pourtant, géographie, j'étais pas trop mauvais. Autant à l'école, c'était pas mon fort. Ouais. Mais la géographie.
Du Maracanã au Kenya, ouais. Ouais, ouais.
Ouais, c'était pas.
Allez. Enchaîne, comme on dit.
Non, mais le problème, c'est que Bordeaux, on en revient toujours pareil. C'est que Bordeaux, ils ont perdu 2 fois à domicile cette saison aussi. Et que dans ce fameux classement britannique cher à Johan Codulo depuis un mois, et les Bordelais, ils n'ont plus le droit non plus à l'erreur pour, dans ce championnat si serré. Et qu'aujourd'hui, le moins de faux pas à domicile peut mettre en péril, non pas une qualification dans les 6, mais parce qu'ils ont gagné 3 fois à l'extérieur. Mais
Julien,
en tout cas, les pénalisés pour la fin de saison.
Il y aura la Champions Cup à gérer parce qu'on l'a dit, il y a Bordeaux-Leicester et Toulouse-Bristol et ces deux Français, les géants français peuvent se retrouver en quart de finale à Bordeaux. Et l'UBB ira à Lyon, ira à La Rochelle, recevra Montpellier, ira à Bayonne, recevra l'USAP, ira à Toulon et recevra Clermont. Donc c'est très épais le calendrier de l'UBB.
Ouais, clairement, clairement. La fin de saison, franchement, elle est loin d'être abordable pour Bordeaux, surtout qu'il y a ce double projet avec la Champions Cup qui vont jouer à fond, hein, bien évidemment.
Et puis t'as perdu
avec ce
de
potentiel
Porter
quart de
jusqu'à la
finale.
Fin de la saison.
Et t'as perdu, oui. Exactement, c'est ce que j'allais dire, Nicolas de Porter qui s'est fait opérer d'ailleurs, opération qui s'est bien passée pour le trois quarts centre des Bleus, mais qui est out jusqu'à la fin de la saison. Côté Toulouse, Will, bien évidemment, tous les regards sont braqués vers un numéro 10 qui n'a pas disputé le tournoi de destination. C'est Romain Ntamack qui va faire son retour. Romain Ntamack enfin annoncé à 100%. C'est marrant parce que à la même période la saison dernière, tous les regards étaient braqués sur Jalibert en sortie de tournoi pour savoir comment il allait digérer un petit peu ça. Là, la pression s'est complètement inversée. Ntamack désormais qui cristallise toutes les attentions.
Ça va vite en rugby, on en reparlera peut-être par rapport à cette équipe de France, les statuts, mais on peut dire que Jalibert a renversé la table.
Ah bah là, ouais.
En équipe de France, il n'y a rien qui est définitif, mais déjà on parle.
C'est Fabien Galthié qui l'a dit chez Vincent Moscato cette semaine.
On parle
hein, parmi ces.
Non mais avant on disait ce sera Ntamack, vous inquiétez pas, ce sera Ntamack, quoi qu'il se passe. Et ses performances en club, et surtout. Il a brisé le plafond de verre, il a gagné avec l'équipe de France. Donc, et Galthié l'a souligné. On a gagné avec Romain, on a gagné avec Mathieu. Et ça, c'est plus pareil dans la tête de Fabien Galthié. Et aussi, bon, ça c'est autre chose en plus, on pourra en faire un podcast, mais le jeu au niveau international qui fait qu'il y a des scores de plus en plus importants, que l'attaque prend une importance sur la défense.
Ouais.
Et que bah, dans ce cas-là, Mathieu Jalibert, avec son profil, eh ben, il se place là. Mais bon, voilà. Romain Ntamack donc, a été embêté, donc blessure très rare au rein. Après, il a une rechute musculaire. Donc, ça fait bientôt 3 mois. Hein. C'était 28 décembre. Hein, donc, bientôt 3 mois d'absence pour Romain Ntamack. Et c'est voilà, l'ironie du sort. C'est, il revient, il joue à Bordeaux. Et qui y a en face bah, Mathieu Jalibert, en plus, parce que tu l'as dit, Yannick Brune joue avec sa meilleure équipe. Donc, ça va alimenter le feuilleton préféré ou pas du rugby français. Bon, bah, tout le monde s'écharpe hein, entre Bordeaux et Toulouse à coup d'arguments. C'est
après, moi je trouve qu'il a renversé la table qu'à moitié. Hein. Parce que si on se retourne un an en arrière.
Il a mis de profil, quoi, la table.
Ouais, non, mais à l'issue du tournoi la saison dernière, Fabien Galthié, quand il est venu débriefer le tournoi, il n'a pas dit j'ai besoin des deux. Hein. Il n'avait pas dit j'ai besoin d'Ntamack et de Jalibert. Hein. Alors qu'hier, il a dit qu'il avait besoin d'Ntamack qui n'a pas joué depuis 4 mois. Donc pour moi, dans mon esprit, en tout cas de la lecture
3,
que je fais, non mais de la lecture que je fais,
dit 3, c'est que dans 3 mois.
Oui, non mais trois mois. Non mais de la lecture que je fais moi de ce qu'a dit Galthié hier, c'est que dans son esprit, Ntamack il est toujours là.
Il l'oublie pas.
Malgré 3 mois de rugby absent, alors que la saison dernière, à l'issue du tournoi, Jalibert, il était à peine prononcé par, c'était Voldemort pour Fabien Galthié quoi. C'était le nom à pas prononcer. Donc je trouve
après,
que oui, Mathieu Jalibert s'est placé.
Il a conscience qu'il aura besoin des deux. Après, il est très lucide sur ça. Heureusement qu'il dit ça.
Bien sûr. Mais quand même, il a marqué beaucoup de points. Voilà, y compris jusqu'à la fin.
Et je répète que Romain Ntamack est quand même gère l'équipe qui marque quand même le plus de points depuis de nombreuses saisons. Donc je pense qu'en termes d'animation offensive, il est quand même pas trop mauvais, Romain Ntamack.
Oui, mais il faut qu'on retrouve le Romain Ntamack.
Je suis d'accord.
Voilà,
toujours la question.
Et c'est l'enjeu. Et c'est l'enjeu de cette fin de saison, Will. Ouais. Dans quel état il est c'est quoi les retours que tu as eu là parce que bah, forcément on s'inquiète parce que au-delà de ces petits pépins physiques là récents, on a la sensation quand même que depuis son exploit en finale du top 14 contre La Rochelle, on n'a jamais retrouvé un Romain Ntamack en pleine possession de ses moyens et ça date, ça va faire 3 ans. Donc ça urge là, j'ai envie de dire, on est forcément un peu tous inquiets par l'évolution de son état de santé.
Mais il a toujours été embêté, hein, depuis 3 ans en fait. Hein. Il a toujours été embêté, il a loupé une tournée de novembre à un moment. Enfin, il avait fallu gérer le genou, hein, le croisé après la Coupe du Monde. Il devait revenir en novembre une année, il a eu un problème à la cheville. Après, il a joué, il l'a expliqué en fin d'année, ensuite en 2025, qu'il a joué toute l'année, enfin 24-25 sur une jambe. Donc, et puis là, ça a continué. Donc c'est voilà. Est-ce que il a beaucoup bossé. Il a passé une phase assez difficile. Hein. Louper ce tournoi, voir Jalibert comme ça qui prend le 10. Voilà, des échos que j'avais, c'est que moralement c'était très dur. Donc il s'est réfugié un peu dans le boulot. C'est ce que nous a dit aujourd'hui Mathis Lebel, son pote, l'ailier du Stade Toulousain, ils se suivent depuis longtemps au Stade Toulousain ensemble. Par contre, voilà, la question qu'on a posée, c'est comment il est. Il revient, mais est-ce qu'il peut revenir tout en haut, reprendre le statut qu'il avait, quoi. Voilà. Alors, on va écouter la réponse qu'il nous a fait.
Je sais pas, vous doutez-vous ? Ah, moi non plus. Non, j'ai aucun doute. On le sait, Romain, on sait que c'est un compétiteur. Bien sûr, comme tout compétiteur, je pense qu'on n'est pas d'une aventure comme celle qu'a fait l'équipe de France, ça peut nous frustrer, mais c'est la vie. Il s'est blessé, il en est conscient, il a travaillé. Et lui, ce qui va lui tarder, et surtout pour connaître Romain, il y a de la frustration, mais aussi il y aura la frustration si à la fin de la saison, on n'arrive pas à aller chercher quelque chose pour le club ou s'il a l'impression de ne pas être performant pour le club. Ça le frustrera peut-être encore plus. Donc lui, je sais qu'il s'est donné les moyens d'arriver physiquement prêt pour la fin de saison. J'espère que tout va tenir pour lui, qu'il va nous amener. Et après, mentalement, je pense pas qu'on ait de doute à avoir sur Romain. Bien sûr que ça arrive à tout le monde d'être dans le dur. Mais bon, je pense qu'il y a quelques joueurs sur lesquels on peut éviter de douter.
Ah, alors vous avez remarqué qu'avec Mathis Lebel, c'est plus Romain Ntamack.
C'est Romain.
C'est Romain.
Non, mais je pense que ce qui est le plus dur pour Ntamack, c'est de voir l'équipe de France gagner. D'ailleurs, dans le reportage qu'avait fait Canal Plus sur Émile et Romain, tu vois qu'il était presque content quand les Bleus n'avaient pas été champions du monde. Et je pense que là, c'est difficile pour lui de voir les Bleus gagner parce qu'ils gagnent sans lui. Et c'est ce que dit Fabien Galthié. On a été capable de gagner avec Jalibert. Donc là, Romain Ntamack se dit, voilà, le temps compte, le temps passe vite, il ne faut plus perdre de temps. Et je pense que c'est difficile de voir ses copains gagner sans soi, sans l'ombre, pour le coup, de ne pas avoir participé à un match. Autant de Porter, je pense qu'il se sent un peu vainqueur du tournoi, même s'il n'a pas joué tous les matchs. Autant là, Romain Ntamack, il n'est pas invité du tout. Donc oui. Là, c'est, psychologiquement, c'est très, très difficile.
Oui, mais bon, sportivement. Du coup, qu'est-ce qu'on en attend, en fait, de Romain Ntamack, là, sur les matchs à venir? Oui, il faut lui laisser du temps, bien évidemment. Il manque de rythme. En fait, je ne sais pas, moi, j'ai du mal à savoir quelles sont les attentes, là, et ce qu'on peut... Je sais pas, est-ce qu'on peut attendre de lui, quoi, voilà, tout simplement. Je vais terminer ma phrase comme ça.
Peps, hein. Offensif.
Ouais.
Julien disait qu'il, oui, il mène l'attaque, souvent la meilleure attaque. Un peu de peps offensif, un peu de la gestion, un gros jeu au pied. Voilà, sa défense, ça n'a jamais été le point d'interrogation. Mais voilà, de voir un Ntamack dominant, en fait. Dominant.
Ça, moi, c'est la vraie question, Will, pour moi. C'est parce qu'on sait qu'il s'est blessé au rein, parce qu'on sait qu'il s'expose beaucoup en défense, énormément même, pour le coup, qu'il ne s'échappe jamais. Est-ce qu'il peut, non pas avoir une appréhension, mais tu l'as dit, il revient d'une blessure extrêmement rare, qui aurait pu être beaucoup plus préjudiciable pour lui. Est-ce qu'il va y mettre la même intensité? Alors, on n'a pas de doute sur sa capacité, mais moi, ça m'interroge, voir comment il va revenir au haut niveau après ce qu'il a vécu, parce qu'une blessure comme il a eu au rein, tu l'as dit, c'est très 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 rare.
Non mais maintenant c'est réglé, donc je pense qu'il a envie de s'envoyer. Ça être, imagine 3 mois sans jouer là, il doit être comme un dingue. Donc surtout reprendre comme ça une affiche du dimanche soir à l'UBB, s'il a une pression hein, quelque part, hein, c'est
donc c'est que tout le monde va le regarder.
Bah, bien sûr. Et puis il a Jalibert en face et l'UBB en face, donc il y a un miroir en fait. Ouais. Hein, donc on part toujours
là,
les deux
pour un
des
retour.
Années, donc,
Franchement, pour un retour, c'est terrible pour lui. Parce que mentalement, ce match, il va forcément être déjà très spécial. Parce qu'il sait que tous les regards sont et tous les projecteurs sont braqués sur lui. Mais en plus de ça, c'est face à Jalibert.
Qui est en pleine bourre.
C'est pas facile d'appréhender le duel de
dimanche.
Vouloir
le découper.
Hein. Ouais, ouais, il va peut-être... Mais bon, attention à ne pas
surjouer
aussi. Il y a le petit
coup de pied par-dessus de Mathieu Jalibert.
Non, bien sûr, aussi.
Une grande
bien
cartouche.
Sûr. Allez, un grand coup d'épaule dans le menton. Oh, pardon. Non, mais oui, attention à ne pas surjouer. Mais je pense qu'il a l'expérience quand même maintenant. Quoi.
Oui, bien sûr.
Voilà, il n'est pas loin d'avoir 27 ans. Voilà. Mais bon, c'est plutôt génial pour le rugby, hein, ça. Hein. Vous sortez du tournoi.
C'est très chouette.
Le diffuseur doit être content. Hein. Dimanche soir, Jalibert face à Ntamack. C'est parfait.
C'est clair. 21h05, ce match dimanche soir à vivre sur RMC. On sera là, même si c'est une soirée spéciale élection municipale, je tiens à le dire. Demain, samedi, vous savez qu'on enregistre ce podcast le vendredi, hein, pour ceux qui nous écoutent le samedi matin. C'est pour ça que je dis demain, samedi 14h30, Clermont-Montpellier. Une équipe clermontoise, qui nous surprend, quatrième du championnat. Victoire contre Bayonne, victoire contre Toulon sur les deux derniers matchs, face à probablement la meilleure dynamique du championnat, on le disait actuel, avec le stade toulousain Montpellier. Vrai choc demain pour lancer cette 19e journée, Jus.
Ouais, et opposition de style. Hein. Autant dimanche soir, on devrait voir des belles envolées avec des joueurs toulousains et bordelais qui aiment jouer. Autant demain après-midi, ça devrait un peu plus castagner. Devant, on se rappelle ce match aller qui s'était terminé sur un pauvre 9-7 avec des mêlées, des rucks, des mêlées, des contre-rucks et des mêlées. Un magnifique spectacle. D'ailleurs, le match, c'est ce match-là, on va l'écouter tout à l'heure, c'est Johan Codul. C'est un peu le match qui a lancé la dynamique des Montpellierains. Et au soir de cette défaite contre Clermont à Montpellier, en perdant, Johan Codulo avait dit oh, c'est pas possible. On ne peut pas se contenter de faire de la défense et des mêlées pour gagner dans ce championnat. Ce soir, on arrête de parler du top 6. Et ils étaient partis en vacances. Et depuis ce match-là, ils en sont sur 11 victoires sur les 13 derniers matchs, en comptant les 4 matchs de challenge européen pour les Montpellierains, plus un bonus défensif à Toulon, un bonus défensif à Pau, où les Montpellierains auraient pu s'imposer. Et on sent que oui, tu l'as dit, il y a une grosse dynamique. Alors, ils sont juste derrière Toulouse sur ce deuxième bloc. Mais là, aujourd'hui, il y a une vraie équipe montpelliéraine qui se dégage avec un vrai 15 type mis en place par Johan Codulo et qui a quand même malgré tout cette envie de revanche par rapport au match aller où ils étaient passés complètement à côté, où ils s'étaient fait manger par cette équipe de Clermont qui, tu l'as dit, est surprenante. Moi, j'ai toujours du mal à sonder cette équipe de Clermont, tu l'as dit, qui a été gagnée à Toulon de manière un peu surprenante avec le bonus offensif qui a d'ailleurs entraîné la mise en retrait de Pierre Mignoni pour quelques semaines, qui est capable de coups d'éclat, qui est devant monstrueuse. Je pense que c'est peut-être les deux plus gros paquets d'avant demain après-midi avec le Stade français qui vont s'affronter. Donc oui, ça va être une guerre beaucoup plus de tranchées que ce qu'on devrait voir dimanche soir. Mais les Montpellierains ont envie d'aller faire un coup au Michelin pour faire solder rendre un petit peu cette défaite du match aller, ouais, rendre la monnaie. Et puis Johan Codulo le dit, on n'est toujours que 6e au classement britannique. Et lui, il ne regarde plus que ça. Ils auront beaucoup de déplacements d'ici la fin de la saison. Et les Montpellierains, s'ils veulent être mieux qu'un 6e ou 5e, ils savent qu'ils doivent faire un coup à l'extérieur. Donc là, il y a Clermont ce week-end, Toulouse la semaine prochaine. Montpellier est l'une des rares équipes de notre championnat à n'avoir jamais explosé de la saison nulle part. Ils ramènent toujours quelque chose, ils sont toujours dans les clous. Donc ils veulent se tester demain du côté de Clermont, qui, tu l'as dit Nico, est une équipe très très surprenante. Ouais.
Moi je trouve ces deux équipes qui se ressemblent.
Ouais, moi aussi je trouve.
Bon, Plumeur a tout changé à Clermont. Hein.
Il marche en l'eau.
C'est plus solide. Enfin, Clermont s'est solidifié, on n'en doutait pas, Christophe Furios depuis 2-3 ans. Montpellier est très épais, mais deux équipes qui se ressemblent parce qu'on essaye de jouer un peu, même si demain. Ouais. Mais il en faut des matchs comme ça où c'est deux guerres de Pâques. Ça nous fait saliver aussi. Ça nous fait saliver aussi de voir cette opposition. Ouais. Que Montpellier a beaucoup de choses à gagner. C'est un vrai outsider pour aller titiller la section paloise dont on va parler après. Mais bon, hein, au Michelin, on a retrouvé ça, cette ambiance au Michelin, cette pression, ce côté identitaire clermontois. Donc c'est bien, c'est deux équipes c'est vraiment bien. Qui peuvent être outsiders, c'est bien, comme dirait Zizou.
C'est bien.
Ça c'est l'analyse, hein. Ça c'est l'entre-les-poteaux, ouais. C'est bien. Ouais, voilà, messieurs, dames, ça c'est cadeau.
Non, on est tombé de notre chaise, hein.
Moi j'ai rendu le casque, j'ai dit je ferai pas mieux.
Oh, les piranhas qui arrivent là dès que vous laissez un bout de traîner là. Mais je sais pas si Montpellier est capable de faire l'exploit à Clermont. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, comment tu les sens.
Il reste sur trois grosses performances à l'extérieur. Le match à Pau où ils sont pas loin de s'imposer, et le match à Toulon. Ils vont gagner à La Rochelle. Ouais, sans vraiment douter le moindre seconde de ce déplacement-là. Non, mais après, tu l'as dit, c'est une équipe qui se ressemble, mais pour le moment, toutes les équipes qui ressemblent à Montpellier sur ce bloc 2, elles ont pris des fessées. Le Stade français, ils sont venus, ils se sont fait rosser. Le Racing, idem. Toutes les équipes qui ont l'identité un peu montpelliéraine, elles sont plus invitées en ce moment. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un vrai test pour les Montpelliérains. Mais s'ils restent sur cette dynamique-là qu'on voit depuis quelques semaines, je pense que, comme le dit si bien Johan Codulo, ils vont maintenir le bras de fer le plus longtemps possible. Après, voilà, il va y avoir des scénarios de match, mais je pense qu'ils sont capables, moi, encore une fois, d'aller faire un coup à l'extérieur. Cette équipe, elle est vraiment surprenante. Et je pense qu'ils commencent à faire peur à beaucoup de monde, hein, parce que devant, quand tu vois le paquet d'avant qu'ils vont mettre, là, Forletta, Oulézé, Oung Patin, Vérac du Guide, Nouchi qui revient, Vunipola Bécognier. Vunipola, j'en parle toutes les semaines, mais il m'impressionne. Et ils vont faire rentrer sur le banc Tolofua, Erdosio, Awas, Chaluro, Tolègne. Donc voilà, donc il va faire un 5-3. Mais la densité du paquet d'avant à Montpellierin, elle a peu d'équivalent aujourd'hui, en tout cas dans ce top 14. Et je pense que c'est un vrai test, parce qu'on sait que Clermont marque la plupart de ses essais sur des ballons portés. Et je pense que les deux équipes vont se faire un malin plaisir à se défier devant. Et le paquet d'avant clermontois, il est costaud aussi. Kremer, Sowakula, Emery en troisième ligne. Cété Lanen en deuxième ligne. Oyovan, Massa, Lautrian. Alors là, ça va taper fort, ça va taper du costaud. Mais oui, tu l'as dit, c'est un match aussi qui va être hyper intéressant, très différent probablement du match de dimanche soir, mais qui va avoir aussi, à mon avis, des réponses pour beaucoup d'équipes de notre championnat.
On a écouté Joanne Codulo ou pas encore?
Non, on va écouter Joanne Codulo sur l'importance de ce match aller, cette défaite. On peut l'écouter.
C'est ce qu'on leur a montré au match aller par rapport à tout ce qu'on a fait, surtout sur notre jeu de transition après leur jeu au pied. C'est vrai que ça a été un petit peu un déclic, surtout qu'on a perdu et ensuite on a eu un temps d'arrêt de 3 semaines. Donc on a eu le temps un petit peu de se remettre tous en question pour repartir de l'avant et on l'a vu après sur l'enchaînement de matchs avec le match à Béziers contre Perpignan et contre Bordeaux. Et c'est vrai que c'est réellement ça. Ça a été cette défaite un déclic, même si on aurait pu le gagner, on avait mis cette pénalité à la fin du match.
Je fais pas de pronos sur ce match-là, moi. Clairement, Montpellier, franchement, je sais pas quoi jouer. Hein. C'est pas là où tu sens
match
que...
Match nul à la mi-temps, comme dirait. Ouais. Ouais. Moi, j'ai demi. Ouais. Non, ce match-là, j'en ai vu des matchs moches, mais alors c'est le 9-7 du match aller. J'espère que ce sera pas pareil demain après-midi, parce que qu'est-ce que c'était moche ce match-là. Oh là, ça avait été d'une longueur affreuse. Et Christophe Furos est arrivé ravi en conférence de presse. Lui. Bah 4 oui, points dans la musette, c'était parfait. Le retour, clairement,
est-ce avec nous, là, pour le manager. Est-ce qu'il est avec nous, Christophe Furos, dans le podcast?
Oh, t'es qu'on voit bien. Non, j'ai même plus envie de le faire, tu vois.
Merci Christophe.
C'est terminé.
Non, mais merci d'avoir passé une tête. Merci d'avoir passé une tête, comme on dit, plus. Ça fait toujours plaisir.
Whisky voilà, Pays
et bonne préparation pour le match de demain, Christophe. On vous retrouve très vite dans l'apéro des poteaux. les mecs sont... C'est complètement roulis, c'est fou. Allez, les deuxièmes matchs qui vont nous intéresser. Il y a un joli Toulon Stade Français qui nous intéresse juste parce que c'est le retour sur le banc de touche de Pierre Mignoni. C'est un peu l'attraction aussi de cette journée de Top 14. Il avait besoin de souffler, Mignoni, et il est de retour avec son équipe.
Oui, on en parlait, c'est cette défaite contre Clermont à Mayol, bonifiée pour Clermont, qui a un peu fait retomber toute la pression sous les épaules de Pierre Mignoni, qui a accordé une interview pleine de franchise vendredi dernier à la presse locale, qui a aussi d'ailleurs parlé à BFM, on va l'entendre. Mais j'ai trouvé cette interview, c'était presque touchant parce que tu sentais un homme qui était à bout quoi, et qui avait besoin de relâcher la pression. Il n'avait d'ailleurs pas été du déplacement à Lyon. Les Toulonnais s'étaient imposés à Lyon. Et de suite, ils avaient dit que c'était pour rendre hommage à Pierre Mignoni. Et c'est vrai que je pense que Mayol, demain, va faire, ou tout à l'heure, en fonction de quand vous écoutez le podcast, évidemment, va rendre un bel hommage à son manager, Pierre Mignoni, qui a, je trouve qu'il a mis des mots sur un problème dont on parlera dans le podcast, dans un prochain podcast, sur... la difficulté d'être manager dans ce championnat, qui est de plus en plus difficile. On en parle souvent aux joueurs, mais il y a 4-5 ans, tu pouvais débrancher. J'en parlais avec Alexandre Bécogni hier, parce que je disais, mais comment tu faisais il y a 5 ans, où il y a des week-ends où il débranchait en disant, c'est bon ce week-end-là, on peut faire l'impasse. Là, tu es 26 journées de championnat, plus le top, plus la Coupe d'Europe, ils sont branchés 32 semaines, 35 semaines sans s'arrêter. Et les managers, c'est encore pire, avec un Pierre Mignoni qui arrive au centre d'entraînement à 5h du matin, encore part à 22h. Et quand tu t'investis comme ça et que sur le terrain, tu ne vois pas ce que tu espères, je pense que ça doit être d'une souffrance terrible. Et je trouve qu'il a mis des mots sur quelque chose dont on n'a pas forcément parlé. Et je trouve ça bien qu'il revienne sur le banc demain de Mayol pour accompagner
se mettre à nu comme ça,
saison.
C'est vrai. Ouais,
ouais, et puis
ouais,
c'est magnifique. Ouais, c'est rare.
Et puis c'est très bien d'avoir de sensibiliser aussi les gens et puis les autres managers et puis les joueurs aussi sur cette charge mentale qu'a un coach qui dirige 45 mecs sans compter les membres du staff. C'est quand même un boulot de zinzin. On va l'écouter, Pierre Mignoni, sur son retour avec Toulon sur le banc toulonnais.
Je me suis exprimé, j'ai connu une période très difficile que je n'ai pas l'habitude de connaître. Je remercie encore les joueurs, bien sûr, le staff, le président, les supporters qui m'ont beaucoup soutenu, même si j'ai pas tout vu parce que j'étais une période très très difficile de ma vie. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai essayé de prendre beaucoup de recul et de prendre les meilleures décisions et c'est ce que j'ai fait. Je reviens avec beaucoup d'appétit et mieux. Je continue à faire tout ce que je fais, mais en mieux.
Ouais, il a fait un burn-out, hein. Il a explosé en vol, Pierre Mignoni, et c'est vrai que son témoignage a été assez touchant. T'en parlais, Jules, hein, mais on vous prépare un podcast sur tout ça, sur l'accompagnement que peuvent avoir les managers de Top 14, sur la détresse
mentale.
Et pas
mentale. Que aussi, Nico, les managers, les staffs aussi, on va essayer de parler de ça aussi, les staffs, parce qu'on parle beaucoup des managers, mais il y a des analystes, il y a des data, des prépas physiques, et qui sont un peu moins sur le devant de la scène, ont peut-être un peu moins de pression, mais qui sont dans cette machine à laver aussi durant des semaines. Et tu l'as dit, on en parlera normalement dans le podcast de lundi ou très très vite, justement, pour
on est en train d'affiner le casting,
un peu tout ça là, tout le travail qu'il peut y avoir aussi avec le Tech 15, le syndicat des entraîneurs, pour vous faire un état des lieux et des chantiers qu'il y a par rapport à ça.
Non, mais c'est un match entre deux prétendants. Demain après-midi. Même si Toulon fait partie des plus mauvaises équipes du top 2, du deuxième bloc. J'ai regardé les classements. Donc Montauban, 0 points depuis début du mois de novembre. Ils n'ont pas pris un point, les Montalbanais. Ensuite vient Bayonne, puis Toulon, qui est donc la 11e pire équipe de notre championnat sur ce deuxième bloc. Mais qui, quand tu vois l'équipe, quand tu vois l'équipe qui va être alignée encore demain après-midi, Priso, Bobigny, Gigashvili, Olivon qui fait son retour, Ribans capitaine, Ludlam, Abadi, Mercer pour le paquet d'avant, Serin, Albornoz à la charnière, Villiers, Dréan sur les ailes, Saint-Zel, Smiley au centre, Marius Daumont à l'arrière, et ils auront en plus sur le banc encore un Melvin Jaminet, un Mathis Ferté, un Tuikovu. Ça reste une équipe hyper épaisse. Tu te demandes comment ils en sont arrivés là, mais ben, des fois les dynamiques veulent que ça tourne pas. Mais l'équipe de Toulon demain après-midi, c'est quand même du solide.
C'est un match charnière, hein, tournant hein, pour les Toulonnais, ouais, je pense, hein, parce qu'ils auront deux déplacements.
Tu prends pas celui-là, c'est mort. Hein.
Ouais, ils vont à Perpignan, à Montauban, deux fois. Et ensuite, ils ont deux réceptions Bayonne-Toulouse. Ça peut bien tourner si y a une belle victoire ce samedi à Mayol. Derrière, ils peuvent enchaîner. Vous savez que les dynamiques, ça joue à peu de choses des fois et que ça peut, un club, une équipe peut être transfigurée. C'est vrai que ce que tu nous as dit sur le papier, la compo d'équipe, mais ils ont la pression parce qu'ils sont septième au moment où on commence cette journée.
Contre une équipe qui fait aussi, pour le coup, qu'on ne voyait pas forcément là et qui va aussi envoyer du lourd, parce que là, ben, les équipes
t'as la compo, sont
reposées. Ouais, Allo Emile, les frangins piliers, Pérez Blanc, Talon, Gabriac Pesanti, deuxième ligne, Makalou, Irigoyen, Celso pour la troisième ligne, Motassi Carbonel, la charnière, Étienne Dakouwaka sur les ailes, Néné Marchand au centre, Marchand et Léo Barré. À l'arrière, ça reste aussi du très solide pour le Stade français.
C'est très solide.
Pareil, tu vois, je pense que celui-là, il est difficile à parier aussi, honnêtement. Même si je pense que Toulon, sur l'effet Mignoni, le retour à Mayol peut emballer ce match-là, c'est un match qui n'est pas simple à parier non plus.
C'est clair. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas du tout donné les compos de Clermont-Montpellier.
J'ai donné les deux paquets d'avant. Le chef n'a rien dit, tu vois, pour une fois.
Ouais. Bah non, mais c'est ton match que tu as choisi. Moi, je vais pas t'embêter sur pour la Rochelle Pau. Vas-y.
Vous ne me reprenez même plus.
Non, mais les mecs, sans déconner.
C'est dingue. Non, on bascule sur le match de Wilfried, du coup, sa deuxième affiche, ce fameux La Rochelle Pau. Parce qu'on a un Wilfried Templier qui croit à son Stade Rochelais. Il nous a dit, les gars, ça revient fort à La Rochelle, il y a des retours dans tous les sens.
Arrête,
il avait dit ça avant de recevoir Montpellier déjà.
Il transforme tout.
On va écraser
tout,
les Montpellierens.
Hein,
comment ça,
bonus offensif, on va leur en mettre 50.
Qu'est-ce que je transforme,
40 et des bouffes.
J'ai pas dit ça comme ça.
Non, oui, parce qu'on a peut-être un peu enjolivé tes propos, mais c'est
ça. Non, mais quand
quand
je disais le match tournant pour Toulon, La Rochelle, il n'y a plus beaucoup de chance, quoi, surtout que c'est à domicile, qu'ils sont déjà inclinés plusieurs fois à domicile, qu'ils sont...
Bah, 8 points de retard, hein.
8 points de retard sur la 6e place, c'est énorme.
Ils sont dans l'Alpe d'Huez, La Rochelle, quoi. Ils en ont plein de tournants, là, mais il faut pas...
Il ouais, y a des mecs qui sont arrivés en haut en tête à l'Alpe d'Huez après. Non. La Rochelle part de très loin. Tu vois, surtout que non, La Rochelle part de très loin, mais je pense que
déjà avec le
les Rochelais,
sur le port,
les Rochelais ont deux matchs pour croire en quelque chose encore. Bah, au-delà de la 8e place déjà, hein, pour se qualifier pour la Champions Cup quand même, c'est important pour l'effectif, pour le recrutement, voilà. Et ils reçoivent la section. Et ils vont à Noeta face à Bayonne. Donc si La Rochelle, qui a fini sur une victoire sur Castres, hein, à Castres, veut encore espérer un quoi que ce soit dans cette saison, c'est maintenant. Par contre, c'est un match super excitant, je ne sais pas vous, mais dans un samedi soir de Flandre plein, avec cette section paloise-là qui est toujours enthousiasmante, il se passe toujours des choses dans les matchs de la section. L'UBB en sait quelque chose sur le dernier match, Nico. Et Julien se frotte les mains à chaque fois, parce qu'on va parler aussi hein, des équipes favorites, mon cher Julien. Toi, tu as deux clubs, toi, tu as Montpellier et Pau, donc on balance aussi. Hein,
il en a trois, La Rochelle, Montpellier, Toulouse,
tu préfères
Castres,
qui
en fonction des semaines.
Tu préfères qui s'il y a une finale Montpellier-Pau, t'es pour qui? On t'écoute avec Nicolas, on t'écoute attentivement. Alors, tu peux pas le dire, quoi. Il va à la brasserie de Yamacher chaque semaine.
Bip.
Bref.
Plus de son, enfin, plus d'image. On a perdu Julien Landry, on s'est déconnecté.
Donc la section paloise qui est là, parce que allez, pour remettre un coup de rap à Pierre Thévenet et Arthur Jean sur un dernier podcast, il avait dit que peut-être que la section s'y perdait contre l'UBB. Voilà.
J'avoue que c'est pas pour les défendre, mais je voyais mal les
Palois
avec 40
l'UBB
à l'UBB.
Je pensais
en tout cas qu'il y aurait un vrai match. Je pensais qu'il y aurait un vrai match.
Ils ont fait exploser l'UBB.
Ils les ont fait exploser. Quoi.
On voit les mêmes matchs quasiment tous leurs adversaires au hameau. Le dimanche soir, il y a eu Toulouse, il y a eu La Rochelle, il y a eu l'UBB. Franchement, c'est ce que je dis, c'est cette équipe-là. Quand même, voilà, c'est. Alors, il y a l'après-tournoi, c'est ce que je voulais vous dire. L'après-tournoi avec les sélectionnés qu'il y a eu, il faut digérer ça. Mais bon, ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas 10 joueurs comme nous, ou 12 joueurs comme les Toulousains dans l'équipe. Donc, et ces mecs-là, on peut parler compo justement, de Pau, sont à La Rochelle samedi soir. Je pense que. Et c'est vraiment en plus. Julien, je te chante, mais ça a de la gueule l'équipe paloise maintenant, quoi. Quand tu regardes ce casting, bon, on y va avec la première ligne, Kolachvili, Montoya, Papidze. Deuxième ligne, Oradou sera titulaire avec Maximin. Troisième ligne, Whitelock, Iwat et Facundo Isa en 8. Charnière, Dobania, Desperes. Au centre, Decron et Gaëton. Arfeuille à une aile, Atisogbe à l'autre aile et Maddox à l'arrière. Et puis sur le banc, on a quand même des Ray, Seneca, Jolmes, Piquet, Zeger, Robson, Simons, Laclaya. Donc, peur sur La Rochelle quand même un peu. Franchement, quand on regarde cette compo paloise, voilà, ça fait peur. Même si alors La Rochelle a peut-être un peu moins de blessés. Je crois qu'ils sortent un article chaque fois sur leur site sur l'infirmerie. Il n'y en a que 9 entre guillemets. Ils tournaient entre 16 et 20. Donc, alléluia. Et une compo rochelaise qui sera avec en première ligne Wardy qui est de retour, Lespio et Feao. Deuxième ligne Kanté Samba. Douglas, par contre, pas de Boudéan, ça c'est un gros coup dur parce que moi je l'ai vu faire un match monstrueux à Castres, Boudéan, mais il est encore blessé. Troisième ligne, Haddad et Botiac entourent Aldrit. Le Garec Astoy qui va rester à La Rochelle apparemment. On raconte cet épisode pour les gens qui l'ont pas vu, beaucoup de monde l'a vu, mais Rodan O'Gara a dit finalement il reste quoi. Il devait partir, il devait le faire partir à la fin de l'année avant son contrat. Il a dit finalement on s'est parlé, voilà. Bon, apparemment il n'y a pas beaucoup de clubs pour accueillir Astoy et son salaire dans leur salary cap hein, sur l'intersaison. Ouais. Mais bon, O'Gara a dit il reste et peut-être qu'Astoy sera content de rester. Je pense que les supporters rochelais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais doivent être contents de garder Antoine Astoy, même s'il y a des montagnes russes dans ses performances. Au centre,
oui,
Ségur
et
Nijvili. Ouais. Pardon ?
Non, j'allais dire que c'est plus consistant que la saison dernière quand même, Astoy, non ?
Enfin, je pense qu'il est capable de bien mieux. Bon, on va voir. On l'a entendu grogner, l'ours palois, mais... Leeds à une aile, Noël à l'autre. Ah, pardon. Paco à l'arrière. Sur le banc, Soutidze, Kadouri, Skelton. Alléluia, Skelton qui redevient un joueur de rugby. Lavaux, la première de Timo aussi, qui arrive du Stade français. On va voir où ils vont l'utiliser. A priori, sur le banc comme ça, c'est troisième ligne. Mais bon, Bergeon, Lagivala aussi, souvenez-vous. Lagivala, le trois-quarts centre fidjien, qui a fait un très bon début de saison, mais qui avait laissé la cheville à Toulon, à Mayol, avant au moment de l'automne.
Bon,
Ouais. Et Kuntelia. Donc ouais. Il y a petit à petit, il y a des retours dans le groupe Rochelet.
Et d'ailleurs, il n'y a pas une chanson à son là, au Lag y va là.
Inspecteur Gadget, ça c'est pour les plus anciens.
Will Skelton, sixième match seulement de la saison. Ouais. J'ai enchaîné vite. Hein. J'ai enchaîné vite parce que j'étais pas sûr de moi.
Tu l'assumais pas trop.
Ouais, je l'ai pas du tout assumé. Ah ouais, inspecteur. Et Gogo Gadget au bras.
Non, arrête là. Bien sûr. Allez, enchaîne. Skelton, sixième match.
Sixième match seulement de la saison pour Will Skelton.
Moi je trouve que c'est. Ouais, quand Will Skelton dit oui, j'ai décidé finalement de revenir avec l'Australie, je joue. Mais je pense qu'il y a des dirigeants Rochelais qui doivent dire quand même, parce que c'était pas prévu quand il a prolongé, je pense. Ouais. Il y a des dirigeants Rochelais qui doivent faire la tête quand même. C'est... Surtout quand il se blesse, il fait des matchs comme ça, c'est... il fatigue,
surtout
il va au bout
du monde, chaque à la fin du mois.
Oui. Vous vous rendez compte, 6 matchs pour Skelton.
Il a joué seulement 262 minutes. Il joue à peine 47 minutes en moyenne.
Ah bah il est frais pour ce
printemps. Voilà. Là il est frais. Voilà. 3 titularisations seulement. Ouais, c'est franchement temps de jeu famélique hein, sur cette saison pour Will Skelton. Les copains, on termine. Oui. C'est le classique de l'apéro des poteaux avec vos petits joueurs du week-end. Est-ce que vous avez des pépites à me présenter là? On commence avec Julien Landry.
Diego Mascarenc. Il n'est pas de la vallée d'Osso. Déjà, j'entends Wilfried de rigoler.
Non, je soufflais parce que non, c'est pas rien à voir. Moi, c'est pas une pépite que je vais vous présenter. Ouais. C'est un mec que vous connaissez, mais tu verras.
Diego Mascarenc, 18 ans à peine, qui va être titularisé au centre de l'attaque de l'USAP ce week-end, qui va connaître donc sa première titularisation en pro, génération 2007. On sait que Laurent Labitte veut faire confiance aux jeunes, qu'il les a intégrés à son projet de jeu. Il avait disputé quelques minutes en challenge européen où il avait notamment fait un 9 sur 9 au plaquage, mais en position 13. Là, il va jouer numéro 12, associé à Dougui Valou. Voilà, des jeunes qui pointent encore le bout de leur nez. Mais bon, c'est aussi une fin de saison, on n'a pas parlé, mais la fin de saison de l'USAP, elle va être particulièrement longue. Bah parce que tu l'as dit Nico, la 14e place, bah, ils ne regardent plus parce que c'est quasiment définitif l'espace qu'il y a entre eux et le 14e. Et la 12e place paraît aujourd'hui trop longue. Donc il y a quand même 3 mois à gérer pour les Catalans jusqu'au match de barrage contre mon Julien. N'oublie pas Provence Rugby, hein, on va y être en finale contre mon ami Philippe Saint-André. Donc non mais ça fait 3 mois pour l'USAP. C'est quand même super long à gérer pour les joueurs.
Je crois bien que j'ai cru que c'était nous. Franchement.
Attends, on va rouler sur les Anglais. Antoine Dupont, il est énorme. Ça va remettre une pâtée aux Anglais. Voilà.
Enchaîne.
3 mois à gérer pour les USAPistes jusqu'à ce match de barrage. Long, ça va être long. Donc Diego Mascarenc, petit jeune joueur, 18 ans, qu'on va découvrir demain après-midi.
Excellent. J'ai pas du tout écouté la présentation du joueur. Franchement, il a l'air fabuleux, mais j'avoue que vous m'avez fait sortir du truc. Allez, Will, je crois qu'il faut que ça se termine là. Je crois qu'il faut.
Je te dis que c'est pas. Tu dis quelle pépite. Moi, c'est pas une pépite parce que c'est un joueur que vous connaissez, mais que tout le monde connaît pas forcément bien. C'est Léo Banos. C'est pas le mec dont on parle le plus au Stade Toulousain, le troisième ligne, mais quelle saison il fait. Il n'a que 23 ans. Non, mais il en est déjà 19 matchs. C'est plus que la saison dernière où il avait quand même réussi à s'immiscer jusqu'à la finale. Hein. Il était sur le banc pour la finale face à l'UBB. Mais c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'épaisseur au sein du Stade Toulousain, même si. Alors sans faire de blague, il a un profil longiligne, hein, 91, 108 kilos, mais qui est extrêmement complet. Je vous vante souvent le QI rugby de Jégou, c'est-à-dire souvent au bon endroit, faire les bons gestes et tout. Banos, c'est exactement ça. Mais quand on est... il vient de... premier club à Parentis, hein, comme Baptiste Serin. On sort quelques rugbymen dans les Landes. Quand on fait à 19 ans 30 matchs, dont 26 titus de Pro D2 avec Mont-de-Marsan, c'est que quand même on a quelque chose. Et le Stade Toulousain l'avait vu. Moi, on m'en parlait déjà quand on était à Mont-de-Marsan, en me disant qu'il fait attention à celui-là. Et il a été prêté, il a été recruté en 2023, prêté, il a fait les matchs de doublon. Et autrement, il était prêté en Pro D2 à Mont-de-Marsan. Et là, depuis 2 ans, il est monstrueux, donc vous le suivrez dimanche soir. On parle souvent des étoiles toulousaines ou bordelaises, c'est pas le mec qu'on met le plus en avant. Et bien regardez le match un petit peu de Léo Banos, en espérant qu'il fera un bon match une fois que je vous aurai dit ça.
Merci beaucoup les copains, on relance cette
il est bouilli, Paul Orsi, il veut rendre l'antenne là.
Non mais là j'aimerais bien que Philippe Saint-André rende l'antenne avec Christophe Furios. Voilà, vous faites un petit teasing aux auditeurs.
C'était un bon podcast de retour, hein.
Parce qu'il faut comprends bien que tu as l'air un peu fatigué, mon Nicolas. Là, hein, il faut rendre l'antenne.
Je raconte une anecdote. Allez. Je suis au Portugal en stage et je savais pas qu'il y avait un décalage horaire au Portugal avec une heure.
Excellent, Philippe. Merci pour tous ces détails. D'ailleurs,
on
Philippe,
s'excuse auprès de nos auditeurs.
On s'excuse.
Tu seras avec nous, Philippe, hein, demain pour commenter à Mayol avec Flo Germain. Donc, on va quand même peut-être lui repasser 2-3 extraits de ses imitations.
Ouais.
Il peut apprécier, Philippe. Merci à tous. Si vous avez aimé ce podcast, ce format, vous n'hésitez pas. Les petits commentaires, on vous lit tout. Merci à Roxane Lacusca. Merci à Toto à la Real. Et on se retrouve lundi.
Bon, oui.
Podcast spécial manager et staff au bout du rouleau, on va trouver des solutions pour que le rugby français puisse protéger un petit peu nos staffs. Allez, rendez-vous lundi. Bye bye, ciao.